votre entrée dans la vie active, pensez à préparer votre retraite avec Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est aujourd'hui la journée internationale des maladies rares. Rares et nombreuses, on en compte au moins 7000. Leur point commun, c'est précisément la faiblesse de leur prévalence. Moins d'un malade sur 2000 sujets, souvent 1 sur 10 000, parfois beaucoup moins. Rares et diverses, elles peuvent affecter l'ensemble de l'organisme, squelette, peau, système nerveux ou digestif. La maladie de l'homme de pierre, par exemple, qui ossifie tendons et muscles, touche 800 personnes dans le monde. En France, il naît un enfant tous les 8 ans atteint de cette pathologie génétique très handicapante. Cette rareté complique forcément la prise en charge et peut retarder le diagnostic. Ensuite viennent l'annonce, les explications, le protocole pour essayer de retarder l'aggravation. Vient aussi la confrontation aux questions sans réponse. Des maladies rares et spécifiques confiées à des équipes expertes qui ont pour souci d'alléger le fardeau des patients et de leur entourage afin d'améliorer la qualité de vie. Et cette rareté a un prix, celui de l'isolement, des limites, des moyens consacrés par la recherche à ces pathologies qui, bien que parfois exceptionnelles, n'en constituent pas moins un véritable problème de santé publique. 11e journée internationale des maladies rares. Avec nous en studio, le professeur Luc Mouton. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes interniste responsable du centre maladies rares à Cochin, centre de référence vascularite et sclérodermie systémique. En studio également avec nous, docteur France Le Turc. Bonjour.
Bonjour.
Responsable du diagnostic génétique des myopathies à l'hôpital Cochin. En deuxième partie de Priorité Santé, nous donnerons la parole au docteur Rose Mbédé, médecin bucco-dentaire, membre de l'association ALMOA, association française de lutte contre les maladies rares, orphelines et handicap, qui agit au Cameroun et au Sénégal. En fin d'émission, vous retrouverez la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo, et bien sûr, le numéro de l'émission pour poser toutes vos questions. C'est le 33 1 84 22 75 75. On évoque ce chiffre de 7000, peut-être 8000 maladies différentes. Professeur Luc Mouton, elles sont regroupées sous la dénomination de maladies rares. Est-ce qu'il y a une identité commune, des éléments, au-delà de cette prévalence très limitée, peu de malades, beaucoup de maladies, qui fédèrent ces pathologies?
Ce qui les fédère, c'est justement leur rareté. Et comme elles sont finalement nombreuses, on arrive à presque 4% de la population dans les pays européens, et donc ces 4%, on ne peut pas les négliger. Et c'est pour cela que, à la demande des associations de patients atteints de maladies rares, est né le premier plan national maladies rares en 2004 en France pour essayer d'encourager la recherche et faciliter la prise en charge des malades atteints de maladies rares.
Alors, il y a deux termes qui circulent, maladie rare, maladie orpheline. Professeur Luc Mouton, est-ce qu'il y a une différence entre les deux ?
Disons qu'une maladie orpheline, classiquement, quand on en parle, on dit qu'elle est orpheline aussi de prise en charge. C'est-à-dire que les médecins, les équipes soignantes les chercheurs qui s'y intéressent sont assez rares et donc difficiles à trouver. La maladie rare ne spécifie pas cela, donc on peut être orphelin de prise en charge. Voilà.
Alors, est-ce que la plupart de ces maladies rares, docteur France Le Turc, ont une dimension héréditaire, et puis, autre question, une dimension génétique?
Oui, il faut bien distinguer les maladies dont la pathologie correspond à une anomalie d'un gène, et puis des maladies pour lesquelles on ne sait pas. On pense qu'il n'y a pas de composante génétique, mais là encore, il faut aller plus loin pour certifier ça.
Alors,
On
pense qu'il n'y a pas de composante génétique, ou peut-être qu'on n'a pas encore découvert le gène impliqué.
Eh bien, c'est le but des chercheurs, c'est d'essayer de collecter justement ces patients qui ont une même symptomatologie. Et plus on aura de patients, plus le groupe à étudier sera grand, plus on pourra voir s'il y a une composante génétique ou pas dans ces populations.
Alors, docteur France Le Turc, vous êtes responsable du diagnostic génétique des myopathies. Comment décrire justement l'apport de la génétique dans ce diagnostic? Qu'est-ce que ça permet de savoir? Et qu'est-ce que ça permet aussi de prendre en charge? Si on n'avait pas ce test génétique, qu'est-ce que ça changerait pour les gens atteints de myopathie?
Alors, d'abord, myopathie dit atteinte du muscle, mais il y a le muscle squelettique, donc qui permet aux enfants de se mettre en mouvement, de marcher. Il y a aussi les muscles lisses qui sont une composante aussi importante dans, par exemple, au niveau digestif. Vous avez le muscle cardiaque. Donc, il y a différents types de muscles qui peuvent être atteints. Et ensuite, le fait de connaître l'anomalie génétique va permettre de faire un conseil génétique, c'est-à-dire de rechercher, par exemple, pour les maladies qui sont liées au chromosome X, c'est-à-dire seules, ce sont les mamans qui transmettent, elles-mêmes ne sont pas symptomatiques, elles n'ont a priori pas de signes cliniques, mais elles vont transmettre une fois sur deux leur chromosome X muté. Le fait de savoir quelle est cette mutation qu'elles ont transmise va permettre de faire, par exemple, de proposer un diagnostic prénatal dans les affections très graves. Et ainsi éviter que dans une même famille, on se retrouve avec 4 ou 5 petits garçons atteints. Donc ça, c'est très important de faire le diagnostic pour le conseil génétique. Ensuite, pour la prise en charge, eh bien maintenant, on commence à connaître des médicaments qui sont ce qu'on appelle, qui vont traiter telle ou telle mutation, qui ne seront pas actifs sur n'importe quelle mutation. Ce sont des traitements qu'on appelle allèles spécifiques. Donc, il faut vraiment repérer ces enfants-là avec tel type de mutation pour lesquels on pourra appliquer le médicament.
Alors, nos auditeurs auront remarqué certainement que vous avez dit petit garçon, parce que les myopathies
qui sont liées au chromosome X, il n'y a que les petits garçons qui sont atteints, et ce sont les mamans qui transmettent la maladie.
Alors, professeur Luc Mouton, est-ce que ces maladies rares peuvent être prises en charge par des médecins de ville, des médecins généralistes, où il faut vraiment s'orienter vers des structures spécialisées?
La difficulté pour un médecin généraliste, c'est qu'il y a 7 à 8 000 maladies rares et donc il ne peut pas les connaître toutes. Donc il va y avoir en fait une nécessité de recourir à des spécialistes. Donc si la maladie est identifiée, c'est facile de se renseigner sur qui peut prendre en charge. Ce qui est plus compliqué, c'est lorsqu'il faut arriver au diagnostic. Ce que je voulais dire et qui est très important, c'est qu'il ne faut pas du tout minimiser le rôle du médecin traitant, du médecin généraliste, avec qui nous prenons en charge en coordination le patient. Et le destinataire des comptes rendus reste le médecin généraliste et le patient reste en contact avec son médecin généraliste qui finalement, lui, va être un partenaire indispensable dans la prise en charge de ces maladies.
Parce qu'il y a des centres de référence, professeur Luc Mouton. On imagine pour des gens qui n'habitent pas à Paris, quand le centre de référence est à Paris, c'est très important ce côté relais, trait d'union entre le patient et l'équipe de spécialistes.
Alors c'est plus structuré encore que ça en France maintenant, puisqu'il y a donc en fait 23 filières. Ces filières sont composées de 3 à 10 centres de référence maladies rares. Ces centres de référence maladies rares, eux, sont localisés dans toute la France, pas du tout seulement à Paris. Et il y a ensuite ce qu'on appelle des centres de compétences, qui sont des centres qui ont une expertise dans la prise en charge de ces maladies rares et qui font un relais régional et qui donc permettent, où que l'on soit sur le territoire national, d'avoir dans à peu près toutes les grandes villes des médecins capables de prendre en charge ces maladies. Et ce réseau de centres de référence et de centres de compétences permet d'assurer le maillage du territoire national.
Alors justement, ce terme de maillage très important en France. Docteur France Le Turc, on imagine bien que ce diagnostic de certaines maladies rares et peut-être encore plus leur prise en charge, c'est terriblement complexe dans certains pays, bien sûr en raison du niveau des déficiences des systèmes de santé. On pense bien sûr à l'Afrique.
Oui, pour ce qui concerne notamment les myopathies, par exemple, eh bien il y a vraiment un manque de prise en charge diagnostique et ensuite curative dans pour ces enfants myopathes. Et malheureusement, il y a sur place des médecins qui tentent d'établir des collaborations avec des centres européens et on essaie de prendre en charge ces enfants, mais c'est au niveau vraiment national dans tous les pays d'Afrique qu'il faudrait vraiment qu'il y ait des programmes d'aide au dépistage de ces maladies.
Professeur Luc Bouton-Acochin, votre travail se concentre sur les vascularites et la sclérodermie systémique. Pour tout vous dire, je n'y connais pas grand-chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aux auditeurs de quoi il s'agit précisément ?
Alors, ces maladies sont classées dans ce qu'on appelle les maladies systémiques auto-immunes rares. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que ces maladies touchent plusieurs organes et qu'elles ne sont pas fréquentes. Et donc ces maladies qui touchent plusieurs organes et qui ne sont pas fréquentes, eh bien on arrive à poser ces diagnostics après avoir éliminé toutes les maladies fréquentes finalement. Et donc on tombe sur un groupe de maladies qui vont éventuellement toucher les reins, les poumons, la peau et d'autres organes. Et parmi elles, il y a d'un côté des maladies inflammatoires des vaisseaux qu'on appelle vascularites et de l'autre ce qu'on appelle des maladies du tissu conjonctif ou connectivite. Et parmi ces connectivites, on trouve le lupus, on trouve la sclérodermie, on trouve le syndrome de Sjögren, qui sont des maladies rares chacune, mais qui forment un groupe.
Alors professeur Luc Mouton, docteur France Le Turc, vous restez avec nous. On va retrouver tout de suite en ligne Raphaël Darbon. Raphaël Darbon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association France Vascularite. Vous êtes vous-même atteint de cette maladie. Alors cette première question, Raphaël Darbon, combien de temps s'est écoulé entre le déclenchement des premiers symptômes et le diagnostic de votre maladie, cette vascularite ?
Alors dans mon cas personnel, alors pour repréciser un petit peu les choses, les vascularites, c'est un groupe d'une quinzaine de pathologies. Et moi, je suis concerné par la granulomatose de Wegener, qu'on appelle aujourd'hui la granulomatose avec polyangite. C'est un petit peu barbare, entre guillemets, mais c'est juste pour repréciser. Et moi, dans mon cas personnel, donc pour la maladie de Wegener, j'ai été diagnostiqué il y a 22 ans. Et à cette époque, elle n'était pas très connue. Mais par chance, j'ai pu être diagnostiqué assez rapidement, à l'inverse du président fondateur de l'association qui, lui, a connu 8 ans d'erreur de diagnostic. Pour moi, il y a 22 ans, j'ai eu une errance de quelques mois, mais le président fondateur, lui, a connu 8 ans d'erreur de diagnostic, avec toutes les conséquences que ça implique.
Alors, Raphaël Darbon, ce retard, vous parlez de quelques mois, donc ce n'est pas très long pour ce type de maladie rare. Vous avez eu le sentiment, finalement, d'être face à des gens qui ne connaissaient pas la maladie ou peut-être de ne pas être écouté ?
Alors, effectivement, à l'époque, les connaissances sur cette pathologie étant plus limitées qu'aujourd'hui, mais il y a aussi un gros problème d'écoute. Les médecins n'écoutaient pas suffisamment les patients, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, on a encore des problèmes d'errance de diagnostic, d'errance de prise en charge ou d'errance de suivi, où le médecin est un petit peu à la base de cette errance parce qu'il n'y a pas suffisamment d'écoute. On vous dit facilement c'est dans votre tête, alors que peut-être que c'est dans la tête, mais c'est aussi dans le corps, c'est partout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le patient à ce moment-là ?
Vous parlez du manque d'écoute, c'est pour ça que vous vous êtes engagé dans le monde associatif pour faire entendre la parole de ces patients, Raphaël Darbon ?
Oui, tout à fait, oui. C'est pour faire avancer aussi et puis faire reculer plutôt l'errance de diagnostic, faire passer les messages, informer les médecins généralistes. Tout à l'heure, vous parliez des médecins généralistes qui doivent être le relais entre la prise en charge hospitalière et le quotidien du patient. Ça marche dans certains endroits, mais il y a encore des endroits en France où ça ne marche pas du tout. Et c'est là où on a une action d'information des médecins généralistes sur l'intérêt du diagnostic et puis aussi l'intérêt de la prise en charge et du suivi du patient.
Aujourd'hui, Raphaël Darbon, est-ce que vous avez l'impression de vous être habitué à votre maladie, de l'avoir acceptée ?
Oui, en 22 ans, j'ai vu quand même pas mal de choses me concernant, avec de multiples rechutes. Ce sont des maladies qui ont un fort potentiel de rechute, donc ça nécessite un suivi assez long. Mais on apprend aussi à vivre avec et il faut essayer d'en faire son allié le plus possible. C'est pas toujours évident, il y a des jours où on n'est pas bien, on n'est pas en forme, on a envie de tout balancer, mais il y a des jours où finalement la maladie vous apporte un plus. C'est un petit peu aussi mon engagement dans cette association, c'est qu'elle me permet d'apporter autre chose aux patients et de pouvoir rompre l'isolement des patients et de leur apporter un soutien.
Et elle impose d'une certaine façon peut-être aussi à admettre que la science ne sait pas tout et qu'on n'a peut-être pas des fois affaire à une forme d'incompétence, mais simplement une sorte de méconnaissance, parce qu'il y a tellement de ces maladies, chacun à prendre les uns des autres. C'est un petit peu le sentiment que vous avez. Maintenant, est-ce que vous considérez comme un patient expert ?
Alors, patient expert, c'est un petit peu un terme fort, je trouve. Un patient référent, je dirais plutôt.
Merci beaucoup, Raphaël Darbon. Je rappelle que vous êtes président de l'association France Vascularite, professeur Luc Mouton. Quand on travaille sur les maladies rares, on doit admettre finalement qu'on ne peut pas tout savoir en médecine.
Il faut, enfin, je le dis très souvent.
C'est un exercice d'humilité.
Voilà, c'est une des qualités les plus importantes pour le médecin. Et quand j'entends Raphaël Darbon parler, je reconnais que moi-même, peut-être par moment, je n'écoute pas assez. C'est très compliqué, vous savez, en permanence en consultation, d'entendre tout et... Quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, de demander un avis, c'est difficile, ce d'autant qu'il y a des symptômes comme la fatigue ou des symptômes comme ça qui sont très communs et très partagés dans la population générale et qu'on retrouve au cours de nombreuses maladies. Donc c'est compliqué, et l'humilité est, je pense, une qualité essentielle du médecin.
Justement, par rapport à ces maladies, précisément, est-ce qu'il n'y a pas encore plus à apprendre des patients, puisqu'ils sont finalement très rares? C'est eux qui ont le savoir dans leur corps, dans ce qui ne va pas dans leur corps.
Tout à fait. Alors, disons que... Lorsqu'on est spécialisé dans les maladies rares, on a en fait cet échange avec le patient qui est qu'à force de voir des patients atteints d'une maladie rare, on connaît la maladie beaucoup mieux, ce qu'on appelle l'expérience, hein. Et ce sont des maladies chroniques, comme disait Raphaël Darbon. Donc on en vient finalement à connaître l'évolution de la maladie après des années et à reconnaître que certains symptômes qu'ont les patients au début ne sont pas les mêmes que ceux qu'ils rencontrent plus tard. Et donc, il y a en effet cet échange avec le patient. Et donc, moi, j'avoue que je travaille beaucoup avec les associations de malades. Et c'est vraiment c'est un échange très interactif. Et je pense qu'on apprend les uns des autres et que c'est comme ça qu'on s'enrichit.
Docteur France Le Turc, c'est très important, cette mutualisation des informations, recueillir les informations et aussi, après, les renvoyer pour que, justement, les connaissances soient entendu et reçu par d'autres pôles médicaux?
Oui, tout à fait. Et je pense que l'organisation que nous avons en France, dont a parlé le professeur Mouton, est vraiment efficace et joue son rôle de transmission des connaissances. Nous, par exemple, pour la filière neuromusculaire, qui s'appelle Filnemus, nous avons des centres aussi de compétences, de références, et très régulièrement, nous avons des réunions communes, nous échangeons des cas de patients difficiles pour lesquels on se pose des questions, et on pense, et c'est toujours vérifié, que quand on réfléchit à plusieurs avec des différentes origines, on peut plus facilement... aller vers un diagnostic plus précis ou avoir des idées sur telle ou telle voie diagnostique qu'il faudrait explorer.
On en reparlera plus longuement parce qu'on va avoir une petite coupure dans quelques instants, mais c'est aussi peut-être ce qui manque terriblement pour les médecins du Sud, docteur France Le Turc, c'est cette capacité à avoir ce recueil d'informations, de connaissances pour orienter aussi les malades.
Bien sûr, et je connais vraiment pas mal de jeunes médecins africains qui recherchent cherchent justement ces compétences et qui se sentent complètement isolés, même dans des grandes villes, dans des grands centres. Juste pour vous dire, il n'y a qu'un seul neuropédiatre en Afrique de l'Ouest qui est à Cotonou. C'est un jeune médecin qui s'appelle Jules Alao et qui a été formé en France, mais qui, pour l'instant, se trouve tout seul dans ce pays-là.
Et isolé. Vous restez avec nous, hein, professeur Luc Bouton, docteur France Le Turc. On va se retrouver juste après les informations.
Priorité santé. Caroline Paré.
On se retrouve dans cette deuxième partie de Priorité santé, toujours pour parler des maladies rares, à l'occasion de la 11e journée internationale qui leur est consacrée, journée de sensibilisation pour ces maladies au fort impact individuel, familial, social. Rares, certaines connues du grand public, hein, comme c'est le cas en Afrique pour la drépanocytose, la myopathie de Duchenne que le Téléthon et l'AFM ont fait sortir de l'anonymat en France. On vous retrouve en studio, professeur Luc Mouton, interniste responsable du centre maladies rares à Cochin, centre de référence vascularité sclérodermie systémique, et vous, docteur France Le Turc, responsable du diagnostic génétique des myopathies à l'hôpital Cochin. Docteur France Le Turc, en France, juste après la naissance, on procède depuis des décennies à des dépistages génétiques, toute une série de recherches de maladies. Quelles maladies, justement, sont détectées à cette occasion? 5, je crois, hein, c'est ce qu'on fait aux bébés, des recherches de maladies précises. Pourquoi on ne recherche que 5 maladies en France?
Alors, on recherche pour l'instant 5 maladies parce que on avait considéré que c'était les plus fréquentes de ces maladies rares. Mais maintenant, ce test évolue. Il y a une dizaine d'années, on a rajouté, par exemple, le test de dépistage de la mucoviscidose qui, jusqu'à présent, avait été testé en Bretagne parce qu'il y a un effet fondateur. Il y a une mutation qui est plus fréquente dans cette zone-là. Donc maintenant, tous les bébés en France ont ce test de dépistage de la mucoviscidose et se pose la question effectivement d'élargir ces tests-là, pourquoi pas pour les myopathies, et notamment en faisant dans ce test de Guthrie un test des enzymes musculaires qui, dans les maladies du muscle, sont toujours élevées dès la naissance, même si le muscle est fonctionnel à la naissance. Progressivement, il va s'abîmer, mais les enzymes musculaires, c'est-à-dire ce qui est le reflet de la souffrance musculaire, ces enzymes vont être élevées. Donc se pose cette question-là et on est justement en train de discuter, mais c'est presque une question éthique.
C'est ce que j'allais vous poser. Il y a une question éthique. Quand on annonce, on fait un test à des parents, voilà, votre bébé a cette maladie, par exemple la mucoviscidose, on connaît la gravité. On sait que maintenant l'espérance de vie a augmenté, mais malgré tout, on sait que c'est une terrible annonce. On sait qu'il n'y a pas de traitement curatif. C'est quelque chose de très dur à assumer pour le corps médical et pour la société en général.
Tout à fait. Alors, si on est positif, on se dit que pour la mucoviscidose, par exemple, on va suivre cet enfant, on va éviter qu'il ait des infections, on va prendre en charge tout ce qui est kinésithérapie de façon à essayer d'améliorer son souffle. Pour la myopathie, notamment la myopathie de Duchenne, c'est ce problème-là qui se pose. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui, jusqu'à l'âge de 3-4 ans, vont vivre tout à fait normalement. Et ensuite, on aura ce déficit moteur qui va s'imposer. Et pour les parents, c'est vrai que c'est j'ai entendu cette parole de parents qui disait on nous a volé 4 ans, voilà, ou 3 ans d'insouciance. Donc c'est pour ça que ce test des CPK, enfin des enzymes musculaires à la naissance, ça pose question. Mais on sent, en discutant avec les collègues étrangers, on sent que c'est vraiment une question culturelle. Parce que par exemple, aux États-Unis, ça pose beaucoup moins de problèmes parce qu'ils sont pragmatiques et ils disent on sait que si des essais thérapeutiques doivent être faits, Il faut les faire quand le muscle n'est pas abîmé, donc il faut les faire le plus tôt possible.
On voit par exemple en Autriche, en Europe, plus près de nous, 29 maladies dépistées dès la naissance. En France, 5 aujourd'hui. On a justement souligné tout à l'heure l'exceptionnel maillage territorial en France. Ça repose forcément sur un financement. Professeur Luc Mouton, cette filière de la maladie rare a besoin de ressources, d'un financement. C'est une forme de redistribution, mais parfois ça pêche.
C'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire que le ministère de la Santé adresse aux différents hôpitaux des fonds qui sont alloués sur un appel d'offres. Donc là, c'est le troisième plan national maladies rares auquel ont répondu un certain nombre de services. Et ensuite, eh bien, il arrive, et ça, c'est l'objet en fait d'un communiqué de presse aujourd'hui, que certains hôpitaux, eh bien, ne reversent pas tout ou éventuellement peu de la somme qui est allouée à ces centres de référence maladies rares, et c'est cela dont s'est ému...
C'est sur la bonne volonté ou c'est une injonction ministérielle, entre guillemets ?
Disons que les fonds sont alloués au centre, mais sont versés aux hôpitaux. Donc après, il faut que l'hôpital ait la volonté de le verser au centre.
De répartir son budget correctement, comme ça a été conseillé en haut lieu.
Mais on sait que nos hôpitaux ont beaucoup de difficultés en ce moment, et c'est ce qui fait que probablement que c'est compliqué. Voilà.
Bon, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Professeur Luc Mouton, docteur France Le Turc, vous restez avec nous.
Priorité santé sur RFI.
L'inégalité géographique face aux maladies rares, on va en parler avec vous, docteur Rose Bédé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin bucco-dentaire spécialiste dans la recherche sur les anomalies bucco-dentaires associées aux maladies rares. Vous êtes membre de l'association ALMOA, association de lutte contre les maladies rares, orphelines et handicap, qui agit au Cameroun, au Sénégal. Alors, vous conduisez des missions humanitaires et de recherche. Quelles maladies rares votre association a-t-elle ciblé ? Vos observations, justement, se portent sur quelle pathologie, docteur Rose Mbédé ?
Ok, merci déjà de nous avoir invités, parce que ce jour... Malgré ma profession médicale du coup dentaire, appelée aussi chirurgie dentaire, j'interviens pour le compte de ALMOA, donc l'association de lutte contre les maladies orphelines et handicap. Et pour revenir sur votre question, les maladies rares rencontrées sont très nombreuses, parfois non étiquetées en raison du manque d'expertise génétique locale. Situation probablement similaire dans toute l'Afrique subsaharienne. Néanmoins, les études pionnières sur le terrain et les rapports de dernière mission de ALMOA relèvent majoritairement les maladies telles que la neurofibromatose de type 1, la sclérose tubéreuse de Bournesville, le syndrome de Protée, holoprosencéphalie, bref, il y en a tellement, syndrome de Rett, syndrome de Gorlin. En gros, voilà ce que je puis citer aujourd'hui comme pathologies les plus rencontrées.
Alors, ce sont des médecins qui vous renvoient des malades. Comment se fait justement ce dépistage ou ce relevé des différentes personnes, des différentes maladies, ce recensement avec l'énumération que vous venez de nous faire ?
En effet, c'est une question très pertinente parce que les dépistages n'étant pas systématiques, peu de parents inquiets face à une difficulté psychomotrice persistante de leur enfant viennent spontanément à l'hôpital pour une meilleure orientation. Ce qui fait que les tics de consultation sont observés lors des périodes de sensibilisation de masse, telles que celles organisées par ALMOA depuis plusieurs années déjà, donc depuis 2009 plus précisément, la peur de la stigmatisation étant réelle chez les familles touchées.
Justement, cette sensibilisation, vous luttez contre la marginalisation des malades, docteur Rose Mbédé, comment vous faites ?
La difficulté de base est que les enfants atteints de maladies rares présentent de multiples malformations physiques sortant de l'ordinaire, telles que le gigantisme des membres, cyclopie ou défense de la biopalatine. De ce fait, notre société, très attachée aux traditions, qualifie les personnes malades de sorcières, de maudites. Les enfants sont appelés des enfants serpents, d'où les regards inquisiteurs. Ce qui fait que depuis la mise en lumière de ces maladies, ALMOA s'est penché sur la sensibilisation, l'éducation des patients et de leur entourage, du grand public, des pouvoirs publics. Les instances telles que le personnel médical et paramédical, les spécialistes des sciences humaines et sociales, les médias aussi devraient être des sources fiables d'informations qui concernent les maladies rares et orphelines. D'où l'importance, je voudrais finir par là, de la formation continue, de la recherche pour une constante mise à jour de connaissances des acteurs suscités.
Justement, votre association intervient auprès des personnels soignants, docteur Rosembédé, pour les informer, pour les sensibiliser. Il y a des formes de sessions de formation?
Oui, tout à fait. Lors des missions de Almora et de par le partenariat établi avec certaines structures hospitalières au Cameroun, telles que l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, nous menons sereinement nos activités et la transmission patient par praticien est faite au même moment. Néanmoins, le souhait serait d'obtenir des conventions d'échange académique et professionnel Nord-Sud pour formaliser la capacitation de l'équipe locale et soutenir les efforts de recherche amorcés pour une meilleure prise en charge des patients au quotidien.
Merci beaucoup, Dr. Rosembédé, membre de l'association Almoa, qui lutte contre les maladies rares, orphelines et les handicaps. Au Cameroun notamment, docteur France Le Turc, on comprend justement, on en a déjà parlé à plusieurs occasions depuis le début de cette émission, la complexité de la prise en charge de ces maladies rares. C'est donc encore renforcé dans les pays en développement avec justement cette problématique non seulement du diagnostic, mais aussi de la marginalisation des personnes différentes, puisqu'il y a un certain nombre de ces maladies rares qui ont des atteintes physiques très importantes.
Oui, et là encore, l'éducation et la sensibilisation de la population doit être mise en avant parce que, par exemple, pour l'hémiopathie, j'ai le souvenir d'enfants myopathes touareg qui étaient vraiment marginalisés parce que c'était des enfants qui ne pouvaient plus suivre la caravane, qui ne pouvaient plus être ainsi dans le groupe, dans la communauté et qui étaient marginalisés. Et un des parents de ces enfants-là, parce qu'il y en avait plusieurs dans la famille, était justement technicien à la Radio Nationale et il a fait une émission pour parler de ses enfants, pour dire que ses enfants ne devaient pas du tout être stigmatisés. Et là, ça a été vraiment un souffle qui est venu de tous les parents qui se sentaient concernés. Et grâce à ça, on a pu commencer à faire des émissions, à en parler, à aller sur place rencontrer ces enfants-là. Et je crois qu'effectivement, il faut pouvoir en parler, il faut que les médecins qui sont en charge de ça puissent avoir la parole et la diffuser.
Justement, cette nouveauté, cette importance de l'information, d'ailleurs c'est l'objet de la journée internationale. Professeur Luc Mouton, un médecin qui travaille, on parlait tout à l'heure de l'humilité sur cette maladie rare. Est-ce que quand on est médecin, on est forcément chercheur quand on travaille sur des maladies rares? Une forme d'enquête au quotidien, enquêteur?
Je crois que le chercheur, c'est plus un état d'esprit et quand on est universitaire comme je le suis, c'est un devoir. C'est-à-dire que nous sommes enseignants-chercheurs et nous prenons en charge les patients. Ça fait partie de notre triple activité, donc c'est un devoir absolu. Maintenant, il est clair que prendre en charge des patients qui ont des besoins qui ne vont pas bien, et par exemple, si dans les vascularites, on a fait beaucoup de progrès récemment, dans une autre maladie, la sclérodermie, on n'a pas fait autant de progrès que cela. Eh bien, en effet, c'est complètement lié, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager de prendre en charge ces patients si on n'essaye pas soi-même de contribuer au progrès pour que leur prise en charge soit meilleure dans 10 ans.
Quand on dit faire des progrès pour une maladie rare, vous avez utilisé ce terme, ça veut dire quoi? On trouve des médicaments mieux adaptés, on allège le fardeau ou vraiment on change la vie des malades?
Il y a différentes manières. Peu d'entre nous auront la chance, le privilège de découvrir un nouveau mécanisme, de mettre au point un nouveau traitement, de démontrer son efficacité et d'allonger la vie des patients. Faut dire les choses, on a tous cette envie-là, cette ambition-là, mais en fait, après, il y a une question de hasard. Mais en pratique, par contre, arriver à améliorer la qualité de vie, c'est aussi, par exemple, quelquefois proposer de la rééducation à quelqu'un qui a un handicap pour qu'il utilise mieux les muscles qui sont relativement intacts par rapport aux muscles qui sont lésés. C'est aussi apprendre à faire des gestes différents pour pouvoir arriver au quotidien à avoir une autonomie. C'est un certain nombre de choses qui sont importantes, et prendre en charge, si vous voulez, les aspects de la vie de tous les jours, c'est quelquefois au moins aussi important que de donner des médicaments, et puis expliquer aussi que des médicaments qui ont l'air d'être anodins sont très importants si on les prend au quotidien.
Mais vous me permettez de faire la transition avec la suite, hein, pour accompagner les changements dans la vie de tous les jours. Une initiative de la plateforme d'expertise maladies rares des hôpitaux universitaires Paris Sud, qui a été récompensée du prix d'innovation sociale 2018, hein, décerné par une grande compagnie d'assurance française. Alessia Usardi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet. Il s'agit d'une cuisine mobile destinée à des enfants atteints de maladies rares du métabolisme hépatique. Alors, cette première question, hein, toute simple, pouvez-vous nous décrire tout simplement ce projet, Alessia Usardi?
Ce projet de la cuisine mobile, elle est en collaboration avec l'équipe des diététiciennes du groupe hospitalier Paris Sud, avec les associations des patients. Donc nous avons eu cette idée de projet d'une cuisine qui soit modulable et transportable, qui nous permettra d'organiser des ateliers culinaires dédiés justement aux enfants qui sont atteints de maladies rares et qui les obligent à suivre un régime alimentaire strict. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir transporter cette cuisine sur les trois sites, les trois hôpitaux des hôpitaux universitaires Paris Sud, donc l'hôpital Bicêtre, l'hôpital Paul Brousse et l'hôpital Antoine Béclair, parce que les centres de référence sont dispatchés sur les trois sites, et donc pouvoir vraiment multiplier les nombres des ateliers culinaires destinés à ces patients, pour vraiment les accompagner à apprendre des nouvelles astuces pour préparer leurs plats, pour accepter mieux la maladie et aussi voilà développer les recettes ensemble avec d'autres petits enfants comme eux et leurs parents, pour que tout soit un petit peu sous forme des jeux aussi, mais aussi pour vraiment leur apprendre l'importance de respecter leur régime.
Oui, parce que là, on ne parle pas d'un régime de confort, hein, on va dire. On parle d'une question vitale, une question déterminante, oui, pour l'avenir. C'est vraiment très important. Là, la diététique est vraiment un élément clé du protocole, Alessia Usardi. Et c'est une manière,
absolument,
justement, d'apprendre, en dehors, en plus, grâce à la mobilité à l'extérieur de la structure hospitalière, dans un autre cadre. Et comment vous envisagez de faire ça? Est-ce que vous avez eu déjà des premières expérimentations, des premiers essais avec les familles?
Oui, les diététiciennes ont déjà fait des ateliers typiquement en 2017 pour une de ces pathologies qui s'appelle la tyrosinémie de type 1. Donc dans cette pathologie, les patients présentent un déficit d'une enzyme qui intervient dans l'utilisation et la dégradation des protéines que nous mangeons. Donc c'est très important, c'est essentiel pour ces patients de ne pas manger des protéines naturelles, des aliments riches en protéines naturels comme la viande, les poissons et les œufs, et d'autres aliments qui sont autorisés mais en quantité limitée comme les fruits et les légumes doivent être pesés, et donc il faut leur apprendre par exemple à utiliser des aliments substitutifs appauvris industriellement en protéines comme des farines, des pâtes et des biscuits spéciaux. Donc c'est vrai que les diététiciennes du groupe hospitalier ont déjà fait ce travail avec ces patients et les patients étaient vraiment ravis parce qu'ils ont appris à faire des recettes, à prendre des petites astuces pour utiliser ces farines, par exemple, qui ne sont pas facilement utilisables, avec des petites astuces que les diététiciens leur ont expliquées. Donc c'était vraiment une expérience très positive. Ils sont demandeurs pour refaire ces ateliers. Et donc c'est pour ça que la cuisine mobile va nous permettre de multiplier ces ateliers que avant on faisait sur place dans un hôpital grâce à la cuisine qui est en place à la cafétéria, mais que voilà, ça nous permet pas de faire des ateliers de ce type tous les fois qu'on le souhaite.
Un cadre différent, très concret, découverte, acceptation. Merci beaucoup à Alessia Hussardi. Je rappelle que vous êtes chef de projet de cette plateforme d'expertise maladies rares Paris Sud avec ce projet Cuisine Mobile, prix de l'innovation sociale 2018. Professeur Luc Mouton, ce type de projet d'atelier, c'est une démarche fréquente lorsqu'on travaille sur des maladies rares, aller directement au contact, hein, pas simplement avec une ordonnance, mais véritablement, ou l'auscultation, mais là vraiment au contact avec le patient.
Oui, alors c'est tout ce qu'on appelle les approches non pharmacologiques, hein, et ça c'est quelque chose qui est en très grand essor actuellement. Alors bien sûr, dans des maladies où le régime alimentaire est très important, mais on peut avoir d'autres aspects, par exemple... Dans une maladie comme la sclérodermie, je participe avec des collègues canadiens et des collègues d'autres pays européens et américains à un réseau, donc qui est en fait une cohorte de patients qui rentrent des données chaque trimestre en ligne. Il y a 1600 patients sclérodermiques dans une cohorte qui s'appelle SPIN, cohorte centrée autour du patient. Et dans cette cohorte, eh bien, on collige des données et on va proposer des essais interventionnels, c'est-à-dire avec un tirage au sort, pour, par exemple, tester l'intérêt de rééduquer la main, d'avoir un support psychologique, de favoriser, je dirais, le regard que l'on peut avoir sur son corps avec les difficultés esthétiques dont vous parliez tout à l'heure, ou éventuellement même s'approprier les particularités de la maladie, un programme d'éducation thérapeutique en ligne. Donc tout cela est en très grand essor et il y a des spécificités dans chaque maladie rare, donc il y a beaucoup, beaucoup à faire pour améliorer le quotidien des patients.
On les transforme, je vais inventer une expression, en cobayes nobles en quelque sorte.
Bah disons que on parle beaucoup en fait du fardeau du patient maintenant. Hein, ce patient atteint de maladie rare, faut qu'il prenne ses rendez-vous de kinésithérapie, d'infirmière, faut qu'il ait ses dates de rendez-vous dans les différents hôpitaux avec les différents spécialistes. Tout ça est très compliqué et je crois qu'aujourd'hui il faut trouver des moyens de simplifier, d'aider, et notamment quand les distances sont longues, c'est aussi quelque chose dont vous avez parlé. Aujourd'hui, Internet permet de raccourcir les distances et d'aider à la prise en charge des patients.
Dernière question. France Le Turc, quand on travaille sur les maladies rares, est-ce que ça change la pratique de la médecine? Est-ce qu'on est un médecin différent parce qu'on a des malades rares et on sait que finalement on a peu de moyens, peut-être peu de personnes à traiter, mais en tout cas peu de moyens et beaucoup plus de difficultés?
Oui, ça n'est pas parce que il y a peu de patients qu'il faut se sentir moins capable. Mais justement, je pense que dans ces maladies rares, il faut vraiment privilégier les réseaux et faire en sorte d'augmenter le nombre de nos patients pour pouvoir avoir des cohortes homogènes, pour essayer de mieux comprendre une histoire naturelle, pour essayer... Et ça, je pense que l'organisation, notamment en France, a été vraiment bien faite de ce maillage-là de centres de compétences et de références qui ne nous laisse pas seuls.
Merci beaucoup, docteur France Le Turc, responsable diagnostic génétique des myopathies à l'hôpital Cochin. Professeur Luc Mouton, interniste responsable du centre maladies rares à Cochin, centre de référence vascularite et sclérodermie systémique. Merci beaucoup. Les bienfaits de l'activité physique pour la santé, on en parle avec vous. Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Docteur Sen, vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et aujourd'hui, vous abordez la question de l'intérêt du sport dans la lutte contre le surpoids. Et c'est bien un enjeu de santé publique.
Bah absolument Caroline. Il faut savoir que 15% de la population adulte est obèse. C'est un enfant sur 6 qui a un excès de poids. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a une augmentation de la fréquence de cette obésité dans la population et que ça touche surtout les populations défavorisées et que ce sont malheureusement les formes les plus graves d'obésité qui ont augmenté ces dernières années. Alors, on le sait, ça a des effets sur négatifs sur la santé, hein, avec des risques de diabète, d'hypertension, enfin toutes ces maladies cardiovasculaires, respiratoires, et puis ça touche aussi la qualité de vie qui est altérée. Et puis, enfin, sur le plan social, on sait qu'il y a une stigmatisation stigmatisation, une discrimination de ces personnes qui sont obèses. Alors, si les personnes obèses souffrent physiquement parce que elles sont essoufflées, elles ont une perte de mobilité, elles ont des difficultés dans leur déplacement, elles souffrent aussi psychiquement et il y a souvent un sentiment d'anormalité, de culpabilité mélangée qu'elles peuvent ressentir. Alors, quelle réponse on leur donne en général? Eh ben, c'est presque toujours autour de la réduction de poids. Ah, vous avez mal au genou, maigrissez. Vous êtes essoufflé, maigrissez. Vous vous sentez mal dans votre peau, maigrissez. Et si vous n'arrivez pas à maigrir, c'est dans la tête. Alors, lorsqu'on connaît la difficulté d'obtenir un amaigrissement durable, eh bien, on comprend comment ces personnes obèses souffrent de manière permanente.
Alors, on parle dans cette chronique du sport, justement, cette question. Est-ce que le sport peut permettre de maigrir, docteur Sen?
Eh bien, Caroline, je vais faire une réponse de Normand, hein. Un peu oui et un peu non. Alors, non, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le sport dépense peu d'énergie. Hein. Pour perdre un kilo, par exemple, faudrait faire 27 heures de vélo, 13 heures de tennis, 17 heures de natation. Donc, ça, c'est difficile à faire sans se blesser. Et puis, oui, aussi, parce que c'est en fait surtout indirectement que le sport va permettre de maîtriser son poids. D'abord, il faut savoir que ça permet de modifier surtout sa silhouette. Hein. On sait qu'on va perdre du gras, reprendre un peu de muscle, dont l'un dans l'autre le poids est à peu près maintenu, mais par contre on modifie sa silhouette. Et puis, psychologiquement surtout, on sait qu'on va modifier son comportement, on va avoir une meilleure, ça va aider à améliorer la composition de ses repas, ça va aider à gérer aussi son appétit et donc à modifier son alimentation, ce qui est un élément majeur pour contrôler son poids.
Alors, il faut choisir. Qu'est-ce qu'on choisit justement comme sport? Plutôt quelque chose d'intensif ou plutôt quelque chose de modéré?
Bah, globalement, Caroline, effectivement, c'est une activité physique modérée qu'il faut faire. Hein. Bon, la marche, le vélo, le jardinage, on sait que ça c'est tout à fait adapté. Surtout pour maîtriser son poids. Et puis, ça évite de se blesser, bien évidemment. Mais en fait, on sait que c'est intéressant aussi de se muscler, par exemple, de faire du renforcement musculaire, parce que cette masse musculaire va permettre d'augmenter la dépense énergétique. Donc, l'important, j'aurais envie de dire, c'est d'être à l'écoute de son corps, de savoir respirer, se relaxer, étirer son corps, le renforcer, bien sûr, mais aussi l'assouplir. Donc, finalement, on pourrait dire que le véritable intérêt de l'activité physique, c'est retrouver un contrôle de son corps, et puis un contrôle de ses besoins et de ses envies.
Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, prépare et fabrique Priorité Santé. Ophélie Lassen, Sophie Bédard, Didier Bleu. Pour écouter, RFI.fr.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui assure votre retraite et vous invite à la préparer efficacement dès aujourd'hui. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.